14 degrés entre Brest, Bordeaux et Toulouse. Donc vous voyez que cette situation va nous amener dans la soirée à une situation orageuse qui pourrait donner d'ailleurs depuis l'Auvergne jusque vers les Hauts-de-France des orages assez forts, et 14 départements depuis Lyon jusque vers la Somme sont en vigilance orange. Prudence donc à cause de ces orages dans la soirée.
Merci à vous Rémi André. Très bon réveil avec Sud Radio, il est 8h.
Parlons vrai.
Nous sommes le mercredi 1er mai, le journal de 8h nous est présenté par Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Après l'agression de Samara à la sortie de ses cours à Montpellier, l'enquête administrative est close. Aucune défaillance de son collège selon l'État. La mère de l'adolescente conteste sur Sud Radio cette conclusion.
Les syndicats sont dans la rue aujourd'hui. 1er mai, synonyme de manifestation placée cette année sous le signe du mieux vivre.
Le 1er mai, jour du muguet, on en parlait à l'instant, mais également du bleuet, symbole, lui, de la solidarité envers les anciens combattants.
Et puis c'est le jour J pour le PSG, direction Dortmund pour la demi-finale de Ligue des Champions. Les supporters parisiens, eux, sont déjà en ébullition.
L'éducation nationale est donc formelle. Il n'y a eu aucune négligence dans l'agression de Samara le 2 avril dernier à Montpellier.
L'enquête administrative de l'éducation nationale exclut toute forme de harcèlement scolaire et explique que l'établissement a fait tout son possible pour la jeune fille de 13 ans, agressée donc à la sortie des cours. Une conclusion qui fait bondir la mère de l'adolescente Assiba.
Je suis choquée de nier qu'il y a eu quoi que ce soit dans le collège, de nier toute responsabilité, moi ça me choque. L'agression, on parle de l'agression, c'est une chose, mais tout ce qu'elle a subi, c'était dans le collège, les crachats dans les cheveux, les insultes, les frappages, les gifles, les ça, c'est dans le collège. Regardez tout ce qu'elle a vécu, Samara, mais pour eux, c'est pas du harcèlement. C'est vraiment pas quelque chose que je peux entendre, et moi, je maintiendrai dur comme fer que ma fille, elle a été victime de harcèlement dans le collège, après qu'ils aient pas eu les moyens ou qu'ils étaient dépassés par les événements. Je peux le comprendre, pas de problème, mais il ne faut pas nier en bloc les choses. Voilà, c'est tout.
Assiba, la mère de Samara, au micro Sud Radio de Clément Barien. Et après l'agression de la jeune fille de 13 ans, on le rappelle, 5 mineurs sont mis en examen pour tentative de meurtre.
À Châteauroux, l'hommage sera rendu samedi à Mathis, 16 ans, tué d'un coup de couteau lors d'une bagarre.
Marche blanche qui passera devant l'école, la maison et le restaurant des parents de l'adolescent. Il y a été tué un samedi à l'arme blanche par un autre mineur de 15 ans qui a été mis en examen et écroué.
Les mobilisations pro-palestiniennes, elles se poursuivent et gagnent de l'ampleur dans plusieurs universités de France.
Avec l'Union étudiante qui promet la poursuite de ses mobilisations demain, après des rassemblements hier par exemple à Saint-Etienne, à Toulouse, Lyon, Dijon ou encore à Paris, Tolbiac. En ce qui concerne le Proche-Orient, cette fois-ci du côté des Insoumis, enquête pour apologie du terrorisme contre Mathilde Panot et Rima Hassan. Elles étaient entendues hier par la police judiciaire. La France Insoumise qui dénonce une censure du gouvernement et un autoritarisme du côté du gouvernement. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti répond au député Manuel Bompard. Vos amis à vous, ce sont les mots-là, vous devriez avoir honte.
De son côté, Israël l'affirme, Israël entrera bien dans Rafah avec ou sans accord de trêve.
L'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou afin d'obtenir, selon lui, une victoire totale. L'État hébreu qui laisse jusqu'à ce soir au Hamas pour donner sa réponse sur le nouvel accord de trêve, accord qui propose 40 jours d'arrêt des combats contre la libération d'otages israéliens.
Les traditionnelles manifestations du 1er mai en France, 200 cortèges annoncés par les syndicats partout sur le territoire.
100 à 150 000 manifestants attendus dans toute la France et des rassemblements, par exemple, très politiques du côté de Perpignan avec les syndicats et les partis de gauche qui se rassemblent en marge d'un meeting du Rassemblement National. Ce sera beaucoup plus social à Marseille où les salaires, l'austérité et l'assurance chômage, Lionel Maillet, seront au cœur des revendications.
Nous exigeons de mieux vivre, annonce le tract de la CGT pour ce 1er mai. Jessica Jadet sera dans le cortège marseillais.
Je pense qu'il y a une colère, de manière générale. Les travailleurs voient bien que les salaires montent pas, qu'il y a une austérité généralisée. La logique pour nous, elle est claire. Nous faire travailler plus longtemps, dans des conditions de plus en plus précaires.
Hasard du calendrier, c'est dans 2 mois, à partir du 1er juillet, que le gouvernement veut durcir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage.
Après l'année dernière, on a passé à combattre cette réforme des retraites. On a l'assurance chômage derrière, quoi. Avec ce qui se passe à Fos, avec les camarades de la métallurgie, qui sont menacés encore une fois de plus avoir d'emploi, cette assurance chômage chômage, elle vient encore plus faire déborder un vase déjà trop plein, en fait, socialement en France.
Autrement dit, tous les ingrédients sont réunis pour réussir cette fête du travail, estime Chloé Broquet de la CGT des Bouches-du-Rhône.
Effectivement, ça fait beaucoup de choses. Il y a le gouvernement et patronat n'arrêtent pas d'enchaîner les réformes antisociales. Une période où il y a une explosion de la précarité, des contrats précaires, des CDD, de la sous-traitance, etc. Les élections, elles sont là, donc il ne faut surtout pas appeler à voter pour les ennemis de la classe ouvrière. Mais en tout cas, c'est à la rue, c'est aux travailleurs et aux travailleuses de se mobiliser réellement pour contrer ces réformes-là.
Une mobilisation qui pourrait pâtir des caprices de la météo. De nombreux cortèges risquent de s'élancer sous la pluie.
Un reportage de Lionel Maillet.
Et 1er mai, synonyme par ailleurs de changement avec des dépenses supplémentaires à prévoir.
Et désormais, il faudra débourser 100 euros pour activer son compte personnel de formation. Également, le prix repère moyen du gaz qui sera en légère hausse. La contribution forfaitaire lorsqu'on va consulter un médecin va augmenter. La consultation, le reste à payer va passer de 1 à 2 euros. Et puis le muguet en ce 1er mai est en augmentation aussi, plus 35 centimes en moyenne par brin cette année.
Et il n'y a pas que le muguet. On se mais une autre fleur est également à l'honneur, le bleuet.
Cette fleur qui symbolise depuis près de 100 ans la solidarité et le devoir de mémoire de la nation envers le monde combattant. Jusqu'au 8 mai, l'association Bleuet de France lance sa grande campagne d'appel aux dons et pour la première fois, sur demande du président de la République, la fleur sera arborée par l'ensemble des autorités publiques. Un symbole fort pour le directeur général de l'association Le Bleuet de France, Pierre-Emmanuel de Lafourcade.
C'est un peu l'ADN du Bleuet de France, à l'instar du coquelicot anglais, de rayonner et d'être le grand symbole, la grande bannière de l'unité de la nation. Et surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que le Bleuet de France, c'est pas la poussière des tranchées, comme ça l'a souvent été. C'est bien une œuvre nationale centenaire, mais qui est très moderne, parce que c'est 25 000 bénéficiaires qui sont aidés quotidiennement par le Bleuet de France, dont 5 000 blessés de guerre, qui sont soit blessés physiquement, soit blessés psychologiquement. Et on accompagne plusieurs militaires blessés qui se sont reconstruits par le sport et qui défendront les couleurs de la France aux Jeux Paralympiques de Paris en août 2024.
Pierre-Emmanuel de Lafourcade au micro de Jules Boscherini.
On l'a appris ce matin, l'écrivain américain Paul Auster est décédé à l'âge de 77 ans.
L'auteur et réalisateur est mort hier dans la soirée, atteint depuis plusieurs mois d'un cancer du poumon. Il a écrit une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues, était connu notamment pour sa trilogie new-yorkaise parue en 1987. Il était invité en France au micro de François Bunel en 2018 lors d'une conférence. Il a évoqué son retour à New York après avoir vécu à Paris entre 71 et 1975. 15 ans.
J'étais heureux dans cette petite chambre de bonne et c'est un beau souvenir pour moi. Après mon séjour en France qui a duré 3 ans et demi, c'était le temps de rentrer à New York et j'étais paumé, je n'avais pas d'argent, c'était 9 $, c'est ça, oui.
Paul Auster, dans un français quasi parfait, qui était interrogé en 2018 par François Bunel à l'occasion de la sortie de son roman 4-3-2-1. C'était son avant-dernier. Le dernier roman, Baumgartner, est sorti en octobre dernier, 2023.
On termine, Laurie, avec du football. C'est le jour J pour le Paris Saint-Germain.
Et oui, après hier, le Bayern Munich et le Real Madrid qui se sont fait un face-à-face terminé sur un score de 2 partout. Ouais. Voilà, pas de vainqueur. C'est au tour du Paris Saint-Germain de défier ce soir les Allemands du Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions. Et Louis de Kergorlet, les supporters parisiens sont prêts pour ce face-à-face.
Aux abords du Parc des Princes, ils sont nombreux à faire leurs derniers achats, comme Amara, confiant avec son maillot du milieu Kangin Lee.
Là, on a enfin passé ce cap qui nous faisait à chaque fois peur des huitièmes, quarts de finale. Maintenant, Dortmund, c'est une équipe quand même à pas sous-estimer. Mais quand même, comme dit Kylian, il n'y a pas à avoir peur, faut arrêter à avoir peur. On est le PSG, on est meilleur, on va gagner, on est en confiance.
Pour Kevin, c'est certain, il n'a peur de personne.
Non, Dortmund ne fait pas peur, on les a battus déjà en phase de poule au parc et match nul à l'extérieur. Le rêve, il est toujours là, quoi.
Et les pronostics sont plutôt optimistes.
Je vois bien 1-0, ça suffit.
Un petit 2-1.
2-0 pour PSG.
Une confiance qui ne ravit pas forcément Nicolas, gérant d'une boutique pour supporters du PSG.
On se pense un peu trop arrivé, trop vite. Aujourd'hui, ça parle déjà de beaucoup de finales, ça parle beaucoup d'une qualification déjà acquise. Loin de là, attention. Dortmund, c'est une très très bonne équipe. Si on ne les respecte pas assez, attention.
Selon l'UEFA, moins de 3% des équipes parviennent à se qualifier après avoir perdu un match aller en phase finale de Ligue des Champions.
Et verdict ce soir, coup d'envoi à 21h.
Allez, un petit pronostic rapidement, vous voyez quoi, Laurie?
Alors, victoire du PSG 3-2. Voilà.
On verra cela. Merci, c'est dit en tout cas. Merci à vous, Laurie Leclerc, et à tout à l'heure, 9h pour le Flash.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 8h09, nous sommes le 1er mai, et vous êtes nombreux à travailler comme Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, qu'on va retrouver dans un instant. Elisabeth Lévy qui reviendra, qui nous parlera, qui fera un focus sur la Légion étrangère, vous allez l'entendre dans quelques instants. Et puis à 8h30, vous avez rendez-vous à Jean-Jacques Bourdin, son invité, 8h30-9h. Ce sera un candidat, une tête de liste pour le Parti communiste français, en l'occurrence pour les élections européennes, Léon Desfontaines. A tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable, hein ?
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à faire profiter des beaux jours à vos pieds qui en ont marre eux aussi de rester enfermés tout l'hiver.
Libère-nous !
Alors vous êtes prête à profiter d'une offre exceptionnelle pour toute la famille. En ce moment, chez Gémeaux, profitez du super déstockage avec une sélection de chaussures à petit prix. Offre valable jusqu'au 14 mai. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon. Hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez d'au moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaise.
8h12 sur Sud Radio, c'est l'heure de Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévis.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Elisabeth, vous revenez d'Aubagne où le commandement de la Légion étrangère célébrait la bataille de Cameron. Pourquoi assister à cette célébration ?
Eh bien pour vous l'avouer, je voulais prendre ma dose de tricolore, de rituel et de tradition. Vous savez, à la Légion étrangère, c'est vraiment de génération en génération. On ne renie pas le passé, on le chérit. D'ailleurs, d'autant plus que ce passé, vous le savez, est fait de légende, d'aventure, de romantisme et d'histoire incroyable. Alors Cameron, c'est un lieu, une bourgade mexicaine qui est devenue une date, puisque en 1863, une soixantaine de légionnaires ont résisté des heures durant à 2000 soldats mexicains. Alors honnêtement, tout le monde a oublié les enjeux de cette guerre mexicaine, une expédition lancée par Napoléon III, mais les légionnaires, ils ne se posent pas, ils ne se demandent pas si leur mission elle est juste ou pas, ils ont rempli leur mission, ça c'est vraiment la chose importante qui était en l'occurrence assurer le passage d'un convoi, et ils remplissent leur mission au sacrifice de leur vie. Et chaque année, le 30 avril, dans une liturgie, c'est vraiment une messe qui est à la fois grandiose et émouvante, où on voit les anciens mis à l'honneur, des vrais héros, soit dit en passant, et bien tous les régiments de la Légion étrangère honorent ses camarades tombés à Cameron et dans toutes les guerres françaises, particulièrement d'ailleurs coloniales. Vous savez, la Légion a joué un certain rôle dans le putsch d'Alger. Alors cette année, comme l'a rappelé le chef d'état-major de l'armée de terre qui était présent, il y a toujours des hautes autorités, c'était aussi les 70 ans de Dien Bien Phu, où plus de 1000 légionnaires français ont péri. En tout, il y en a eu plus de 12 000 en Indochine, en pas mal de temps, depuis 1880. Et Pierre Schill, donc le CEMAT, a évoqué le retour de la guerre conventionnelle. Nous devrons maintenant montrer notre force et être prêts à l'employer dans les conditions les plus rudes, a-t-il dit. Je sais que je peux compter sur la Légion. Demain, s'il le faut, vous ferez Cameron, a-t-il lancé aux légionnaires. Ça veut dire qu'ils rempliront la mission coûte que coûte.
Mais n'est-ce pas vrai ça de toute l'armée, Elisabeth?
Sans doute, on l'espère, mais la Légion, c'est spécial quand même. La Légion, c'est une troupe d'élite, hein, c'est 11% de nos forces terrestres, et ce sont des soldats entraînés, hyper entraînés pour attaquer. Mais surtout, la spécificité de la Légion étrangère, eh bien, c'est qu'elle est étrangère. Les soldats appartiennent, alors les officiers sont français, sauf ceux qui d'ailleurs, des légionnaires peuvent devenir officiers hein, par l'avancement interne, je dirais, mais en général, les officiers sont français, des Saint-Cyriens, et les soldats, appartiennent à plus de 100 nationalités qui viennent servir, ces légionnaires viennent servir notre drapeau. Alors, dans le passé, on a poussé l'œcuménisme national très loin, hein, puisque les morts de Dien Bien Phu étaient essentiellement des Allemands, hein, de la Wehrmacht, même plus parfois. Aujourd'hui, il faut bien le dire, on est plus regardant, il y a des enquêtes de sécurité pour recruter, évidemment, on n'a pas envie de recruter des gens qui vont se retourner vers leurs camarades. Mais la Légion, avant tout, pourquoi j'aime la Légion, qui est vraiment une institution d'ailleurs très très populaire. Hein. Les Français adorent la Légion étrangère. Eh bien parce que c'est une métaphore du génie français qui est de fabriquer des Français avec n'importe qui. Ça a marché très longtemps et c'est la preuve, la Légion étrangère, que la diversité heureuse, ça existe, ça passe par l'assimilation. Quand il y a tellement de Français qui se prennent pour des victimes éternelles et qui clament leur détestation de leur pays, qui serait raciste, xénophobe, etc. Eh bien, ces étrangers venus de partout, eux, ils disent leur amour pour ce pays qui n'est pas encore le leur. Hein. Alors, bien sûr, on ne demande pas aux légionnaires d'oublier son origine, mais à la Légion étrangère, il n'y a pas de multiculti, pas de venez comme vous êtes. Ici, on a pas là-bas, pardon. On apprend le français en chantant et on peut devenir français. Non par le sang reçu, mais par le sang versé. Alors, cher Benjamin, au lieu de donner aux écoliers d'improbables cours d'empathie, emmenons-les, alors on peut les emmener à l'opéra, c'est pas mal, hein, mais ouais. On peut aussi les emmener assister à Cameron et ils apprendront l'héroïsme, le sacrifice, mais aussi que finalement, il est joyeux et heureux de se demander ce qu'on peut faire pour son pays.
Cameron, jamais ce sou. De ce combat héroïque dans les murs de la hacienda.
Merci beaucoup, Elisabeth Lévy.
Vive la Légion!
Cri du cœur d'Elisabeth Lévy. Françoise de Gois, vous nous avez rejoint. Dites-le franchement, vous avez entendu à l'instant la chronique d'Elisabeth. Légion étrangère, modèle d'assimilation, symbole du génie français.
En tout cas, extrêmement populaire. Je vous rappelle quand même que dans le défilé du 14 juillet, les gens qui sont le plus applaudis, ce sont les légionnaires, avec leurs barbes. Donc, moi, depuis que je suis petite, je regarde ces gens comme des héros. Cameron, c'est bien qu'Elisabeth en parle, parce que, voilà, on a besoin aussi d'héroïsme. Je crois qu'il n'y a quasiment pas eu de survivants, ou peut-être un ou deux, je ne sais pas.
4 ou 5, oui. D'ailleurs, il le raconte chaque année, un soldat dans tous les régiments qui raconte l'histoire de Cameron, et donc, il y a aujourd'hui les Mexicains étaient tellement, le colonel mexicain était tellement sidéré par l'héroïsme de ces hommes qu'à la fin, les 4 ou 5 qui restaient. Alors, ils se sont rendus, mais ils ont dit on se rend si vous nous laissez nos armes et nous laissez enterrer nos morts. Et il a dit, il y a des hommes comme vous, alors c'est l'histoire, elle est peut-être apocryphe, on ne refuse rien, mais il y a un monument au Mexique qui célèbre le courage des hommes du capitaine d'Anjou, et les Mexicains, l'armée mexicaine s'incline quand un officier mexicain passe devant ce monument, il s'incline. Je voudrais votre avis là-dessus, c'est-à-dire, vous avez là, si vous voulez, des gens qui viennent quand même. Si vous voulez, c'est pas simple. Vous avez des Chinois, des Népalais.
Elisabeth, moi, j'irai pas plus loin que ça dans votre raisonnement, parce que j'entends ce que vous dites. Je fais partie des gens qui voudraient, par exemple, que le service militaire soit rétabli et que j'aimerais bien aussi que... Non, et ça, depuis toujours, moi, je fais partie. Vous savez, moi, je suis l'ordre juste. Hein, je suis assez corseté sur ces questions-là. Je pense que c'est un merveilleux creuset. Après, l'assimilation dans la Légion, c'est quand même un cadre extrêmement particulier. Vous pouvez pas plaquer ça, si vous voulez, à toute une société française. Moi, je ne crois pas. Mais par contre, c'est formidable que vous preniez Cameron, parce que je pense que nous avons besoin d'héroïsme.
De
nous
rituels.
Avons besoin de rituels.
De liturgie.
On a des rituels républicains, mais nous avons besoin d'héroïsme. Pourquoi est-ce que le sport est tellement passionnant? Parce que le sport, il va chercher des héros, des gens qui se dépassent. Nous, on a tous appris vraiment les Thermopyles. Honnêtement, comment ça a pu traverser l'histoire 300 soldats spartiates qui tiennent le défilé des Thermopyles, 300 000 hommes de l'armée perse, 300 spartiates face à 300 000 hommes, ils tiennent jusqu'au bout, etc. Donc je pense que la Légion, c'est merveilleux ce que vous en dites. Je ne suis pas d'accord sur l'assimilation placable comme modèle général sur la société. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, nous avons besoin d'être transcendés, nous en avons formidablement besoin. Ce n'est pas parce que c'est l'armée, moi je ne considère pas que l'armée c'est sale ou que c'est,
que c'est pas bien.
Non, mais je veux dire, il y a une idée, une caricature qui voudrait que la gauche soit forcément antimilitariste. Pas du tout. Je pense que nous avons besoin de héros et Cameron, c'est bien, c'est vachement bien que vous ayez.
D'ailleurs, j'ai rencontré le patron de la Marseillaise, un journal
communiste de Marseille.
Le patron
bien sûr.
De la Marseillaise, journal communiste qui ne rate jamais à Cameron. Alors, dans la région, d'ailleurs, c'est. Non, je voulais quand même insister, moi, sur ma chose. Je ne dis pas, si vous voulez, on ne va pas apprendre à tout le monde le français en chantant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui arrivent. À qui on ne dit pas que la France c'est dégueulasse, à qui on ne dit pas vous avez été victime de l'histoire, alors que si vous voulez, ils viennent aussi beaucoup de notre empire colonial. Donc si vous voulez, on leur dit pas tout ça et eux ne pensent pas tout ça. Vous avez des gens qui apprennent à aimer la France en renonçant à un peu quelque chose, évidemment pas à tout ce qu'ils sont.
Il y a beaucoup de gens qui font ça en France, Elisabeth.
Beaucoup, Elisabeth Lévy, Françoise Debois.
Excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui le font pas.
Dans un instant, dites-le franchement, c'est important en tout cas de parler de la Légion étrangère. On parle pas souvent, peut-être pas assez.
Il était beau, il était chaud. Non, il était beau, il était gros, il sentait bon le sable.
Allez, 8h21.
Vous n'avez pas fait la Légion, vous n'avez pas.
8h21 sur Sud Radio. Non, pas encore, mais pourquoi pas. Vous le savez, 8h30 à 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin ce matin, c'est Léon Desfontaines, tête de liste PCF communiste pour les élections européennes. Avant cela, on retrouve Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, dans un instant. À tout de suite.
Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.
Carrefour, pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99 € au lieu de 599,99 €. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58 CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99 €. 36,99 € au lieu de 39,99 €, soit 9,25 € le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise.
8h24 sur Sud Radio avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin, 8h30 avec Léon Desfontaines, tête de liste PCF pour les élections européennes. On poursuit le débat, dites-le franchement, avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gouas. On va parler de la France insoumise tout de suite, les manifestations pro-palestiniennes, minorité d'étudiants, il faut le dire, mais qui bloquent de plus en plus d'universités, les policiers qui les délogent, ces deux personnalités de la France insoumise, Mathilde Panot, Rima Hassan, entendu pour apologie du terrorisme. Vous avez peut-être entendu la passe d'armes hier entre Hugo Bernalicis à l'Assemblée nationale, la France insoumise, précisons-le, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Ça vous fait réagir, Françoise de Gouas?
Oui, parce que au-delà du fait que il n'est pas possible de censurer des personnalités politiques dans la mesure où elles ne dérapent pas pénalement, je rappelle quand même que c'est déjà arrivé à une personnalité, je pense que, et moi la première d'ailleurs, qui suis tout le temps en train de plaider pour l'égalité, j'ai même pas respecté mon précepte parce que je n'ai pas fait de levée de bouclier quand Marine Le Pen en 2015 a été traînée par Bernard Cazeneuve, ministre socialiste de l'époque, pour apologie du terrorisme. Donc, il lui est arrivé la même chose, mais en pire, hein, Marine Le Pen, que Mathilde Panot et Rima Hassan. Donc, je rappelle quand même que, même moi la première, et je fais un mea culpa en disant je me suis pas du tout... Je n'accepte pas qu'on fasse de la censure. En revanche, je n'accepte absolument plus ce qui est en train de se passer, et je voudrais quand même que nous tous nous cessions de tomber dans ce piège. Il est impossible, si vous voulez, d'accepter que le débat des européennes soit stérilisé par la question que veut imposer et que parvient à imposer jour après jour Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de rire.
Et contre leur propre candidate, Manon Aubry, qui aimerait bien parler des européennes.
Parce que Jean-Luc Mélenchon veut faire de Rima Hassan mai 2024, la Daniel Cohn-Bendit de mai 68. Ça stérilise le débat. C'est totalement pervers. Ça n'a rapportera rien électoralement, et ils le savent, mais ça assèche complètement le débat. On ne peut pas se laisser entraîner dans une actualité politique qui n'est plus saturée que par cela, avec les injonctions de choisir, soit vous êtes un affreux sioniste, fasciste, netanyahouesque, soit vous êtes un affreux islamo-gauchiste.
On a compris votre point de vue.
Réveillons-nous.
C'est très clair.
Non, mais réveillons-nous.
Et j'aimerais entendre,
les médias, les politiques,
entendre Elisabeth Lévy sur ce sujet. Censure politique,
moi je suis une affreuse sioniste, je l'assume, donc il n'y a aucun problème pour ça. Ça ne me dérange pas du tout, et ça commence à me taper sur les
médias et
ça commence à me taper sur le système. C'est évidemment pas le cas de Françoise, que sionisme devienne une insulte dans ce pays et dans d'autres d'ailleurs. Mais bon, ça c'est alors deux choses. La première, moi, dans le cas de Marine Le Pen, c'était encore plus grave parce qu'elle avait simplement montré des photos pour dire Daesh, c'est ça.
Et c'était chez Jean-Jacques Bourdin en plus.
On lui a fait subir une expertise psychiatrique, ce qui est quand même un scandale démocratique. Maintenant, moi, depuis le début, je trouve ces histoires complètement stupides. Si vous voulez, on ne règle pas, on ne va pas enlever les élèves, on ne va pas gagner, on ne va pas faire chuter électoralement LFI en les traînant à la police. C'est complètement, j'allais dire con, pardon, mais c'est complètement idiot de penser. Et d'autant plus, la catastrophe serait, dans le cas de Mathilde Panot, les autres, c'est plus Rima Hassan, à mon avis, ça c'est... Elle peut être condamnée. Mais imaginez que Mathilde Panot, si vous voulez, qui a pesé ses mots, hein, fait, il faut attention, sorte et qu'on lui dise « Ah ben non, très bien madame, au revoir et merci ». Qu'est-ce qu'elle va nous dire, si vous voulez? Donc, en plus, c'est contre-productif. Et c'est pas comme ça, évidemment, c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Moi, il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est leur comportement avec les journalistes. Et je pense que là, on devrait quand même, collectivement, qui était là l'autre jour au micro de Bourdin, et qui, quand il était devant Sciences Po, a commencé à cracher sur les médias.
Non, c'était avec moi, c'était Thomas Porte, la semaine dernière. Ouais.
Non, mais ces gens, ils sortent des interviews, on leur a posé des questions qui leur déplaisent, ils hurlent comme des porcelets qu'on égorge, et surtout, ils font donner leur nervis sur les réseaux sociaux. Et après, ils commencent à se taper un journaliste, à lui dégueuler dessus, à envoyer des menaces de mort, ça suffit. Et ça, moi je pense que maintenant, il faut dire aux insoumis, soit vous respectez la règle du jeu, soit vous reviendrez quand vous serez poli. Moi j'en ai assez qu'on se laisse traiter. Les journalistes sont tétanisés. Je veux dire, je me rappelle le truc avec Duhamel, Sarah Gnafo. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, je veux dire, alors complément d'enquête, on en a parlé, mais pas en face-face, est-ce que quelqu'un a dit à Mélenchon, oui, j'arrête. Parce que quelqu'un dit Mélenchon et vous, le mélange des genres. Donc, ça suffit de se laisser faire. Pardon, Françoise.
Oui, en une minute,
on aura même le temps d'échanger. Je souscris totalement. Ouais. Étant une de ces journalistes, moi, j'ai suivi, vous savez, je subis les trolls. Insoumis, c'est pas un problème. C'est d'autant plus grave. Non, mais parce que moi, en plus de ça, j'ai soutenu Mélenchon sur toute la partie sociale. Donc, c'est encore plus grave. La rupture, c'est une traître sioniste, évidemment, agent d'Israël. J'ai même entendu ça. Moi, je suis agent de la propagande israélienne, moi qui est Netanyahu. Qui
toujours... C'est payé,
mais, non, mais même pas. En plus de ça, je ne sais même pas faire du business. Je voulais juste dire, vous avez raison, Benjamin, je voulais juste dire que, je le redis, nous ne pouvons pas passer les 5 semaines qui viennent à avoir le débat pris en otage, et je choisis volontairement ce mot, par la stratégie voulue par Jean-Luc Mélenchon. Et tout le monde, on peut dire ce qu'on veut, mais il y parvient. C'est-à-dire que nous ne parlons que de ça. Donc à partir de maintenant, moi, j'ai quasiment décidé d'arrêter de parler de Gaza.
C'est pas un peu trumpiste ?
Non, j'ai décidé d'arrêter de parler de Gaza.
Non, je parle pas de vous, je parle de Mélenchon.
Non, c'est pas une stratégie trumpiste. Mais c'est vraiment le trumpisme en action, et c'est même très extrême droite de l'ancienne époque, Jean-Marie et Le Pen. On a un sujet et on l'impose tous les jours.
Merci à vous, Françoise Le Goix, Elisabeth Lévy, un grand merci pour ces débats. Bah, figurez-vous qu'on va parler des européennes dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, 8h30, 9h. C'est Léon Desfontaines, tête de liste PCF pour ces élections européennes. Une très
et
belle journée avec
Françoise, quand même, mérite d'être
Radio. Mais oui, c'est pas de journée à tous.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je fais le coup plus de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby.
Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à expliquer à vos copines que non, Virginie, c'est toujours pas une nouvelle robe, c'est encore la même que je peux porter de plusieurs manières. Alors vous êtes prête à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, la robe multiposition est à 15,99€ au lieu de 29,99€. Offre valable jusqu'au 14 mai. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio.
Respire. Tu ressens cette liberté ? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Et regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunitat Valenciana. Méditerranée en live.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi. Et en plus, il ne veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures.
Assurance Prévention. Une association de France Assureurs.
Vous en connaissez beaucoup, des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de piou. Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Allô Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non !
Mais si ! Et si à partir de 2€ le t-shirt, il t'en prend 3.
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center, voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Léon Desfontaines, tête de liste communiste aux élections européennes. Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous ce matin. Je regardais le dernier sondage quotidien. Nous diffusons tous les jours un sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Dernier résultat hier à 17h, vous êtes à 3%. Toujours à 3%. LFI à 7, écologiste 7, Glucksmann, place publique PS 14. Vous ne décollez pas, pourquoi ?
Parce que la campagne commence. Elle commencera d'ailleurs même dans une quinzaine de jours. On voit aujourd'hui les Françaises et les Français qui commencent tout juste à s'intéresser à cette élection européenne. Et d'ailleurs, je remercie Sud Radio de commencer à en parler activement et notamment d'inviter les têtes de liste aux élections européennes. Moi, maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut présenter chacun nos projets politiques et puis on va les différencier. Moi, je souhaite juste faire de cette campagne européenne répondre aux questions qui nous sont posées. Et la question fondamentale de cette campagne européenne, à mon sens, c'est est-ce que nous voulons plus ou moins produire sur le territoire national ou européen ? Est-ce que nous voulons permettre à ce que l'Europe soit un levier pour réindustrialiser, pour développer des services publics ?
Donc vous voulez plus d'Europe ?
Et nous,
non. C'est clair.
Alors moi je le dis, l'Europe de Macron. Oui. Emmanuel Macron a fait son discours à la Sorbonne. Il a dit notre Europe, elle est en train de mourir. Eh bien moi je lis l'Europe d'Emmanuel Macron, celle de la hausse des factures d'électricité, celle de la désindustrialisation, celle qui oblige la fermeture de classes et qui rend notre hôpital public au bord de la faillite. Cette Europe-là, je le dis très clairement, qu'elle crève et qu'on construise une autre Europe. Une coopération européenne qui soit enfin un levier pour permettre de favoriser l'industrie, lutter contre le chômage, éradiquer le chômage, faire baisser les factures d'électricité.
Donc plus d'Europe. Forcément face à la Chine. Moi je suis États-Unis.
Mais bien sûr qu'il faut de l'Europe. Bien sûr qu'il faut de l'Europe. Mais moi, je suis très sceptique sur la construction européenne libérale telle qu'elle est. Et je le dis, Emmanuel Macron a raison. Cette Europe-là, elle va mourir. Elle nous mène droit dans le mur. Elle est incapable de répondre à l'impératif environnemental. Elle est incapable de répondre aux enjeux et à l'accès des services publics. Elle est responsable de la hausse considérable des factures d'électricité et du recul du pouvoir d'achat. Cette Europe-là, c'est plus possible. Maintenant, il faut construire une autre Europe. Je le dis complètement. Pour en effet concurrencer les Chinois.
Je vais y revenir. Les Chinois, le président chinois sera à Paris la semaine prochaine. Ça va être un moment important. Pour vous, les écologistes sont antinucléaires et fédéralistes, LFI communautaristes et instrumentalisateurs de la cause palestinienne, l'EPS va en guerre et plutôt fédéraliste, c'est ce que j'ai entendu, hein, Léon Desfontaines. Alors, nous sommes le 1er mai, vous irez manifester aujourd'hui, j'imagine, contre qui et contre quoi ?
J'irai manifester pour déjà dire que la question sociale doit redevenir prioritaire dans notre pays et pour dire qu'aujourd'hui, il est temps d'agir concrètement pour l'emploi. Créer de l'emploi en France. On a aujourd'hui 60 000 entreprises en France qui sont dans une situation critique. J'étais la semaine dernière à Metex, entreprise qui fait de la lisine, dernière entreprise en Europe à faire de la lisine à destination de nos producteurs et nos éleveurs, notamment de volailles, qui risque de fermer, et notamment un site qui est chez moi à Amiens. À Lacotel, à côté de Lyon, qui fait de l'eau de Javel de la marque Lacroix. On a aujourd'hui des fleurons industriels, y compris français, qui sont en train de disparaître.
Mais pourquoi
à cause de cette Europe libérale-là ? Parce que sur la lisine, par exemple, si je prends l'exemple de Metex, et aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale qui s'est installée avec les Chinois.
Donc plus de protectionnisme.
Donc il faut mettre de la protection, et c'est pas un gros mot de dire qu'il faut mettre en place du protectionnisme, en effet, pour protéger notre industrie d'une autre. D'une autre, ce que nous disent tous les artisans, tous les exploitants agricoles, tous les chefs d'entreprise, c'est la hausse des factures d'énergie, la hausse des factures d'électricité. Aujourd'hui, si on a des entreprises qui sont mises à mal, c'est parce qu'on a un marché européen de l'électricité qui vient indexer le prix qui est produit à bas coût, notamment de l'énergie grâce à notre marque nucléaire, qui est indexé sur le prix du gaz qui est 3 fois plus cher. Sortons de ce marché européen de l'électricité.
Développons parallèlement
le parc nucléaire pour permettre justement
de réindustrialiser. Je sais que vous êtes très pro-nucléaire. Les grands patrons sont des voyous, à vos yeux ?
Ah ben, je pense que c'est particulièrement indécent ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois le rapport d'Oxfam qui montre les salaires des grands patrons, je trouve que c'est indécent. Quand je vois monsieur Carlos Tavares, patron de Stellantis, qui a un salaire annuel de 36 millions d'euros, qui en moyenne a un salaire qui est 500 fois plus élevé que le salaire moyen de son entreprise, je pense que c'est indécent. Et le seul bilan de monsieur Stellantis, c'est la suppression de 26 000 emplois en Europe. Est-ce qu'il mérite son salaire ? Je ne pense pas.
Et vous voulez plafonner leur rémunération ?
Tout à fait. Moi, l'Union européenne a légiféré récemment. Elle a mis en place ce qu'on appelle un salaire plancher. Un salaire minimum à l'échelle européenne qui est bien en deçà de ce que nous demandons. Mais il y a un salaire minimum qui a été instauré. Moi, on m'a toujours dit qu'un plancher, si on n'installait pas de plafond, le plancher, il prenait l'eau. Donc, il faut installer aussi un plafond. Un salaire plafond pour les patrons. Et moi, je souhaite aller de 1 à 20. C'est-à-dire que si un patron souhaite augmenter son salaire, il augmente aussi celui de ses salariés, tout simplement.
De 1 à 20, l'écart.
L'écart de 1 à 20.
L'écart de 1 à 20. Bien, nous sommes le 1er mai. Préavis de grève déposé par les éboueurs de Paris. Paris. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Vous l'avez constaté. Oui. Il demande une prime de 1900 euros et d'autres avantages. À la SNCF, la CGT a déposé un préavis de grève concernant toute la durée des Jeux. À la SNCF, il y a eu un accord. Les agents pourront continuer à partir à la retraite à 52 ans pour les roulants et à 57 pour les autres. C'est du chantage, tout ça.
Alors déjà, je tiens à saluer le fait qu'on a un dialogue social qui fonctionne dans notre pays à la SNCF.
Oui.
Ça aurait été le contraire, on nous reproche toujours en disant le dialogue social est impossible, les syndicalistes ne veulent pas se mettre autour de la table des négociations.
Social,
on a réussi à avoir un dialogue social.
Et
je ne reprocherai jamais personne de se mettre
en
grève.
C'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications.
Attendez, remettons les choses dans le contexte.
Est-ce cela ou pas ?
Remettons les choses dans le contexte. Moi, je ne reprocherai jamais à aucun travailleur, encore plus dans le contexte de cette inflation galopante, de se mettre en grève pour l'amélioration de ses conditions de travail, pour l'augmentation de ses salaires ou pour pouvoir partir à la retraite
plus tôt. Vous encouragez ces grèves pendant les Jeux ?
Moi, je n'ai ni à les encourager, ni à les
conspuer.
Je les soutiens, bien évidemment. Moi, je soutiens systématiquement la mobilisation des travailleurs sur l'augmentation des salaires. Attendez, aujourd'hui, on a une inflation galopante. On a des travailleurs pauvres dans notre pays. Bien évidemment, aujourd'hui, que je soutiens les travailleurs qui se mettent en grève et pour l'augmentation des salaires, mais aussi, il faut le dire, pour l'augmentation de leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, quand on voit l'état de la SNCF, on ne peut que soutenir les salariés de la SNCF.
Oui, mais pardon,
que
l'état
les agents de
la SNCF, l'État, ETAT, a injecté 20 milliards d'argent public en 2022, 20 milliards dans les comptes de la SNCF. À la SNCF, 52 ans pour les roulants, 57 ans la retraite pour les autres. Dérogation à la réforme des retraites. Moi, je me mets à la place des salariés du privé qui n'ont pas cette possibilité-là de partir à la retraite plus tôt. Et même chez les fonctionnaires, les autres fonctionnaires.
Ce sont des privilégiés.
Ce sont des privilégiés ou pas? Mais non, bien sûr que non.
Ce sont des avant-gardistes. La mobilisation contre la réforme des retraites, les cheminots et les énergéticiens notamment, étaient le fer de lance de la mobilisation contre la réforme des retraites. Si aujourd'hui on part à la retraite plus tard, c'est à cause du gouvernement, c'est pas à cause des cheminots, c'est pas à cause des énergéticiens. C'est ça la réalité.
Plus tôt que la loi le prévoit.
Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, le gouvernement a passé en force sa réforme des retraites, qui est rejetée par l'écrasante majorité de la population. Ce 1er mai, il est aussi là pour rappeler que le gouvernement, il n'a jamais eu de majorité pour passer sa réforme des retraites.
Que répondez-vous aux salariés du privé qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir influer sur les Jeux, de pouvoir prendre les Jeux Olympiques en otage, comme le font les salariés de la SNCF, les agents de la SNCF?
Mobilisons-nous. C'est un exemple, ce qui se passe à la SNCF. Ça montre qu'en effet, par la mobilisation, on est en capacité de déjouer les plans du gouvernement. Mobilisons-nous aussi électoralement, parce que la réforme des retraites, si elle a été mise en place en France, c'est aussi à cause des directives européennes, notamment la Commission européenne qui a influencé les politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron et par son gouvernement sur l'âge de départ à la retraite. Cette Europe-là, justement, de la hausse des factures d'électricité, c'est aussi cette Europe-là qui a imposé le décalage d'âge de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, les fédéralistes, je le dis, ils proposent cette Europe. L'Europe de M. Glucksmann ou l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est une Europe qui propose de travailler plus longtemps.
C'est la même.
Ils votent 90% ou 80%, peu importe, des textes ensemble. Ils proposent la même Europe fédéraliste.
Mais ça ils marche, il est à 14%, vous à 3%. Ça marche.
Ça marche mieux que vous. Oui, Glucksmann, c'est en marche. La réalité, c'est que Raphaël Glucksmann, socialdemocrate, Il plaide pour changer l'Europe. Il nous dit partout, il faut changer d'Europe. Il est même pas capable de changer les orientations politiques de son groupe. Et qu'il ne nous fasse pas croire qu'il va changer l'Europe. Son groupe politique, les socialistes européens, ils ont voté main dans la main avec la droite de Bellamy et avec les centristes, les libéraux d'Emmanuel Macron pour le retour des règles budgétaires, pour la coupe dans nos services publics. Si on a des classes qui ferment, si on a un hôpital public qui aujourd'hui peine à joindre les deux bouts, c'est à cause de l'Europe de M. Glucksmann et de M. Macron. Donc moi, je le dis aujourd'hui au peuple de gauche, je tends la main à l'ensemble du peuple de gauche, votons pour une gauche authentique, une gauche populaire, une gauche qui remet le travail au cœur de son projet, une gauche qui en 2005 avait dit que cette Europe libérale, il n'en voulait pas.
Mais pas la gauche d'LFI, si j'ai bien compris, parce que je vous lis, je vous entends, Léon Desfontaines. LFI fait beaucoup de mal à la cause palestinienne, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi est-ce que LFI fait du mal à la cause palestinienne ?
Vous savez, moi, je me suis engagé chez les jeunes communistes en 2013, j'avais 17 ans. Depuis cet âge-là, je suis pleinement engagé pour la libération du peuple palestinien, pour une solution d'une paix juste et durable entre Palestine et Israël. Une solution à deux États, avec Israël d'un côté et Palestine de l'autre, sur les frontières de 1967, comme le préconise le droit international. je suis engagé pour cette cause depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, j'interpelle mes partenaires à gauche en disant qu'il est temps de faire de la question palestinienne un sujet de campagne. Et j'ai fait d'ailleurs
c'est ce
de
que
cette
fait
campagne
les filles, sujet. Un et vrai la France sujet
insoumise.
De campagne.
Et la France insoumise. La France insoumise.
La France insoumise monopolise la parole sur la question palestinienne.
La France insoumise méprise aujourd'hui la revendication des peuples palestiniens. Lorsqu'elle entretient une confusion sur la solution à deux États, lorsque j'entends Madame Obono nous dire que le Hamas est une force de résistance palestinienne. Quand j'ai lu le communiqué de la France insoumise du 7 octobre qui juge que le Hamas est une force armée de la Palestine, ce n'est pas vrai. Le Hamas est une force d'asservissement du peuple palestinien. Ce n'est pas une force de résistance, c'est une force terroriste, islamiste qui veut mettre en place un califat dans le Proche-Orient et qui veut rayer Israël de la carte. Ce n'est pas une solution de paix, le Hamas. Et donc moi, aujourd'hui, j'en veux aux dirigeants de la France insoumise qui ne sont pas clairs sur ces propos-là. Nous avons aujourd'hui besoin d'être tous engagés pour une ambition.
Pourquoi ne sont-ils pas clairs, selon vous ?
Mais parce qu'ils entretiennent la confusion qu'ils entretiennent. Lorsqu'ils disent
une
que le Hamas...
Une instrumentalisation de la cause palestinienne ?
Si réellement... Ben, bien sûr. Le but... De l'entreprise de la France Insoumise, c'est de faire parler d'eux. Et quand je vois qu'ils entretiennent une confusion, ce n'est pas preuve du hasard ou d'une méconnaissance du dossier. Ils le font sciemment. Lorsque ils disent qu'ils ne savent pas ce que sont que les frontières de la Palestine, lorsque Madame Hassan dit que l'organisation, l'initiative du Hamas est légitime, je pense que c'est profondément problématique. Et à ce moment-là précis, en effet, ils piétinent le combat des Palestiniens à vouloir vivre en paix aux côtés d'un État israélien.
À des fins
électoralistes ? À des fins électoralistes. C'est-à-dire... Ils veulent faire entendre parler d'eux. Ben, ils font parler d'eux. On entend parler d'eux depuis maintenant quelques semaines. Et je le dis, si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, pourquoi alors M. Katnins et Mme Panot ont retiré leur signature de la résolution qui avait été déposée par les députés communistes condamnant le régime d'apartheid imposé par Israël en Palestine et condamnant la colonisation? Pourquoi ils l'ont retiré 2 mois avant les attentats du 7 octobre? Pourquoi ils l'ont retiré que c'était durant l'été? Si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, comme ils le disent. Et l'autre problème, c'est que je le dis, aujourd'hui on doit interpeller Emmanuel Macron pour la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien. Et il faut qu'on soit tous unanimes sur cette question-là. Et moi, je salue la mobilisation exceptionnelle des étudiants en cours, justement, qui veulent faire pression
auprès d'Emmanuel Macron. Vous les encouragez, les étudiants ?
Mais je les soutiens, bien évidemment.
Vous les soutenez, mais vous n'y êtes pas.
Je les soutiens.
Avec eux.
Mais
en permanence à côté d'eux.
À Sciences Po, peut-être. Mais voyez qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle est partout.
Dans les universités.
Et nous avons les jeunes communistes qui sont particulièrement mobilisés sur cette question-là. Et moi, je salue. Je salue ces étudiants qui se mobilisent et qui ont le courage qu'Emmanuel Macron n'a pas.
Et qui crient de la rivière à la mer ?
Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Mais c'est minoritaire dans les mobilisations. Et c'est honteux. Et je comprends, moi, tout à fait, notamment les députés de La République En Marche, de Renaissance, qui ont critiqué ces slogans-là. Mais du coup, s'ils les ont critiqués, qu'est-ce qu'ils attendent pour enfin reconnaître l'État palestinien aux côtés de l'État israélien? Qui reconnaissent les deux États maintenant? Emmanuel Macron, qu'attend-il pour reconnaître enfin l'État palestinien sur les frontières de 1967? Si vraiment ça le choque,
Est-ce que les universités françaises doivent cesser toute collaboration, c'est même pas une collaboration, non. Tout échange avec les universités israéliennes.
Non, je ne partage pas, y compris les fers de lance des mobilisations anti-Netanyahou naissent dans les universités israéliennes. Donc aujourd'hui, au contraire, on a plutôt besoin d'appuyer ces mobilisations, ce monde universitaire, ce monde étudiant israélien, qui aujourd'hui conteste les logiques de colonisation. Moi, ce que j'entends avant tout dans les universités, c'est aujourd'hui des étudiants qui disent qu'il est temps que Emmanuel Macron reconnaisse l'État palestinien, qu'il est temps qu'il agisse pour la libération des prisonniers politiques, notamment Marwan Barghouti. C'est ces revendications-là qui doivent être majoritaires et qui sont en réalité majoritaires dans la population française. Juste quand je disais que justement je reprochais à la France insoumise de piétiner le mouvement pour la libération de la Palestine, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a une écrasante majorité des Françaises et des Français qui non seulement sont choqués sur ce qui se passe à Gaza, mais qui revendiquent la reconnaissance de l'État palestinien sur les frontières de 67. Par contre, on a une écrasante majorité des Français qui ne veulent pas être associés aujourd'hui à la France insoumise, à ce qu'elle dit, à son flou concernant le Hamas. Tout simplement.
Pour, la France insoumise, c'est le fer de lance de l'islamo-gauchisme ?
Je sais pas, mais...
Mais vous savez pas.
Non,
mais
parce que
pensez,
la France insoumise est un tout hétérogène,
mais
je sais pas ce qu'est l'islamo-gauchisme.
Allez au fond, est-ce que vous pensez que la France insoumise est le fer de lance de l'islamo-gauchisme en France ?
Je sais pas ce que c'est que l'islamo-gauchisme.
Bon, la laïcité en danger ?
Bien sûr.
Est-ce que la France insoumise met la laïcité en danger ?
Oui, clairement. quand je vois Madame Simonet, députée du 20e arrondissement de la France Insoumise, s'être permis de crier au loup contre le proviseur de Maurice Ravel, qui a dû d'ailleurs partir en retraite de manière prématurée parce qu'il avait une pression, notamment par des groupes islamistes, c'est un problème. Lorsque on remet en cause la loi de 2004 sur l'interdiction des ports religieux ostentatoires, je pense que c'est un recul de la laïcité. Je pense qu'ils ont leur propre définition de la laïcité, qui n'est pas la laïcité que nous avons
pour
aujourd'hui
aller chercher des voix
France.
Dans certains quartiers.
C'est possible, je ne sais pas. Ça faut l'envoyer.
Bien, Mathilde Panorima-Hassan, convoquée hier par la police, après enquête, apologie du terrorisme, la démocratie en danger, dit LFI, vous le pensez ?
Je pense que la démocratie est en danger lorsqu'on commence à créer des délits d'opinion politique. Ouais. Et en l'occurrence, Mathilde Panot, qui est convoquée pour le communiqué de presse qui a été fait par son groupe après le 7 octobre, que je dénonce, je critique. Oui. Mais ce sont des opinions politiques. Il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Bah. Je ne pense pas, en tout cas, dans ce communiqué.
Mais quand Éric Zemmour communiqué, est convoqué, vous
par
dites
ces
quoi
opinions, et par contre, ces opinions, je l'ai dit, je ne les partage pas et je l'ai
même
dit.
Même chose pour Éric Zemmour.
Quand est-ce qu'il a été convoqué ?
Bah, il sur a été convoqué sur plusieurs sujets.
Pour incitation à la haine raciale et xénophobie, il a été condamné. Ouais. C'est un multirécidiviste. C'est une racaille, Éric Zemmour, qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine. Bah, bien sûr. Un multirécidiviste qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Ça suffit. Moi, on est même favorable avec Fabien Roussel qu'il ne puisse plus se présenter à l'élection présidentielle. On veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale.
Vous demandez à ce qu'Éric Zemmour soit rendu inéligible.
Oui, comme toutes les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Comment on peut avoir des représentants de la nation qui sont censés rassembler le peuple français autour d'un destin commun qui distille sa haine comme le fait Éric Zemmour, et d'ailleurs il a été condamné à de multiples reprises pour ces raisons-là. Eh bien moi je le dis, oui bien sûr qu'il faut rendre inéligible Monsieur Zemmour. On ne peut pas avoir une personne qui a été condamnée pour racisme, xénophobie et antisémitisme comme étant potentiellement présidentiable.
L'Europe va devoir engager des financements massifs pour une défense européenne, mais pas que pour la défense, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la nécessaire transition énergétique, le développement du numérique, de nouvelles technologies. Là, vous êtes d'accord avec tout ça, j'imagine. L'Europe de la défense, oui.
Alors l'Europe de la défense, il y a tout et n'importe quoi derrière.
Oui, non, mais
moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une coopération européenne entre États souverains en matière
coopération
de défense
militaire.
Mais je ne suis pas favorable à une armée européenne. Je pense que d'ailleurs l'armée européenne ne peut pas exister. Qui sera le chef des armées? Est-ce qu'on nomme un commissaire européen qui ne répond devant personne? Est-ce qu'on fait comme le Conseil de l'Union européenne, on joue à chaise tournante et tous les six mois c'est un chef d'État qui devient chef des armées, puis de temps en temps on accepte que ça soit Orban ou George Meloni.
Personne ne défend l'armée européenne. Défense européenne.
Beaucoup de gens nous parlent quand même du fait qu'il faut tendre vers une armée
européenne. Une défense européenne, c'est quoi ?
J'ai débattu avec Mme Loiseau qui était sur votre antenne hier, qui nous parlait d'une armée européenne.
Hein. Ouais. Mais une défense européenne, c'est quoi ? Ce sont des missiles ?
C'est l'idée.
Des missiles, des soldats, des armes, bien sûr.
L'idée, elle est simple. C'est que depuis trop d'années, on a délaissé notre défense aux États-Unis à travers notre bouclier qui est l'OTAN. Et donc, on s'est rendu compte avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie que nous n'étions plus en capacité, peut-être que le continent européen, de nous défendre. Nous étions dépendants des États-Unis pour nous défendre parce que nous n'avons plus la capacité, tout d'abord, industrielle. On produit plus suffisamment d'armes sur le territoire national et le territoire européen.
Donc vous encouragez à la fabrication d'armes.
Mais il faut des armes pour se défendre par contre. Moi mon problème aujourd'hui c'est que l'industrie de l'armement française, elle se repose avant tout vers l'export. On est aujourd'hui dans un marché capitaliste, on vend un maximum d'armes à l'étranger. Moi je souhaite que les armes qu'on produise en France, elles servent avant tout à défendre et à armer nos soldats français pour justement permettre de défendre la France et défendre l'Europe. C'est ça moi que je porte aujourd'hui. Et bien évidemment il faut une coopération européenne parce que la France toute seule ne pourrait pas se défendre. Aujourd'hui on a des géants militaires, donc bien sûr il faut une coopération avec l'ensemble des pays européens, et pourquoi pas aller au-delà de l'Union européenne si jamais d'autres pays souhaitent le rejoindre.
Les intérêts vitaux de la France se limitent à ses frontières, à nos frontières.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Je reprends les propos du président de la République. Pas de partage de souveraineté sur l'arme nucléaire?
Aucun.
Aucun partage
aucun.
De souveraineté.
Attendez, pareil, mais qu'est-ce qu'on fait sur l'arme nucléaire? Du coup, demain décide ou pas d'utiliser l'arme nucléaire? Moi, je veux que ça reste une prérogative du président de la République.
Mais ça restera.
Et de la France. Il est hors de question de la donner à d'autres pays européens.
Ça restera. Mais imaginons que l'Allemagne soit attaquée. Imaginons. Soit envahie. Nous faisons quoi?
Mais justement, une coopération européenne en matière de
nous
défense.
Quoi
et donc, c'est-à-dire que
nous allons nous battre avec les Allemands.
Une alliance défensive. Bien évidemment, il faut une alliance défensive entre chaque armée européenne. Quand je dis qu'il faut une coopération à l'échelle européenne en matière défensive, c'est-à-dire que chaque État membre de l'Union européenne fait des partenariats, il y a une transparence sur notre armée et qu'on puisse justement se dire que en cas d'invasion, on est en capacité de se défendre mutuellement. Voilà ce que c'est une coopération défensive à l'échelle européenne.
Je vais terminer avec l'Ukraine. Vous demandez un cessez-le-feu en Ukraine. C'est très bien, c'est très beau de demander un cessez-le-feu. Oui, non, mais d'accord, pas qu'en Ukraine, vous demandez aussi un cessez-le-feu à Gaza. Alors, il va peut-être y avoir une trêve jusqu'à ce soir. Le Hamas doit répondre aux dernières propositions.
Et j'espère que les otages seront libérés.
Voilà, nous allons voir. Mais en Ukraine, un cessez-le-feu, mais à quelles conditions ?
Bah, tout d'abord, un cessez-le-feu pour engager les discussions et les négociations. La question, c'est plutôt comment on arrive à une paix dans cette région.
Non, mais un cessez-le-feu, je veux bien, mais avec qui et à quelles conditions ?
Et donc, justement, j'en viens sur les conditions, sur le traité de paix que nous portons. Moi, j'ai toujours été clair là-dessus. Il faut aider les Ukrainiens à se défendre et bien évidemment, il faut leur livrer des armes pour permettre d'empêcher Vladimir Poutine et la Russie de continuer à avancer comme elle le fait maintenant.
Donc, leur fournir des armes
semaines.
Pour conduire un cessez-le-feu.
Donc, il faut fournir des armes pour se défendre parce que c'est la condition sine qua non, justement, à remettre tout le monde autour de la table des négociations. Si Vladimir Poutine est en passe de rouler sur Kiev dans les semaines ou dans les mois à venir, jamais il se remettra autour de la table des négociations. Donc bien évidemment qu'il faut aider l'Ukraine à se défendre. Parce que c'est la condition justement pour pouvoir remettre tout le monde autour de la table.
Sur la base des territoires aujourd'hui occupés par les Russes.
Non, moi je suis clair là-dessus, dans la table des négociations sur la paix. Il faut le retrait des troupes russes des territoires occupés.
Parce que vous pensez que Poutine va accepter ça?
Et j'en viens justement sur en condition de quoi on garantit le statut de neutralité de cette région garantie par l'ONU. Et notamment dire que demain, les armes nucléaires notamment de l'OTAN, les soldats de l'OTAN ne seront pas aux frontières russes. C'est les deux conditions qui nous permettront justement de retrouver une solution.
Mais elles le sont.
Mais elles le sont pas à l'Ukraine.
Mais elles le sont, vous savez bien, dans les Pays-Baltes par exemple.
Mais en Turquie, mais justement...
Il y a même une enclave russe, Kaliningrad, qui est dans l'OTAN. Donc elles le sont, les armes de l'OTAN. Donc vous n'allez pas garantir cela aux Russes, c'est impossible.
Bah en tout cas, sur l'Ukraine, on peut garantir le statut de neutralité. Vous savez, il y a eu des négociations quand même pendant le conflit. Il y en a déjà eu quelques semaines après le début de l'invasion. On était dans les négociations, on a toujours été clair en disant que les Russes devaient retirer leur troupes des territoires occupés.
Comment faites-vous pour convaincre Vladimir Poutine?
Si on garantit le statut de neutralité, alors
vous
il n'aura plus
que
aucun
Poutine
argument. Mais bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que Vladimir Poutine a légitimé son intervention en Ukraine sur la question justement de l'avancée de l'Occident et de l'OTAN, et notamment le fait que l'OTAN aurait justement une frontière de plus en plus conséquente aux frontières russes.
Je rappelle que Poutine avançait en Crimée avant même tout ça, hein.
Très bien,
en 2014.
Mais 2014, justement, c'était les débats autour de l'intégration potentielle de l'Union européenne, de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui a aussi mis le feu aux poudres.
Vous êtes contre ?
Bien sûr, je suis contre. Oui. Mais pour deux débats différents, il y a la question bien sûr de la guerre, mais je veux dire, demain l'Union européenne à 35, à 30 avec la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans, avec des pays qui ont des salaires minimums à 200 euros, à moins de 200 euros par mois, ça signerait la ruine de nos agriculteurs et la fuite en avant de notre industrie. Ça va favoriser le dumping social et moi je le dis, cette Europe de mise en concurrence, je n'en veux plus. Un pays qui a un salaire minimum à 200 euros par mois, ça ne peut pas permettre le développement du continent.
N'est-ce par pas contre, un peu naïf quand même de penser que vous allez conduire Poutine conduire Poutine sur une table de négociation. Franchement,
il n'y a pas
une forme de naïveté là-dedans.
Moi, ce que je demande, c'est quelle autre alternative.
C'est facile de dire on veut la paix,
Quelle autre alternative avons-nous? Enfin, moi, j'entendais, j'ai eu un débat
tant
avec.
Tant qu'il n'y a pas de victoire militaire, quelle autre alternative avons-nous?
Mais ce que je dis, c'est qu'il faut aider les Ukrainiens justement pour leur permettre de négocier en position de force. Mais aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il ne faut pas négocier. Tout le monde nous dit qu'il va falloir une issue diplomatique. Personne ne nous dit que l'objectif, c'est que l'Ukraine roule sur Moscou. L'objectif, c'est à un moment ou à un autre quand même de retrouver justement, de se retrouver autour de la table des négociations et trouver une issue diplomatique. Et moi, j'ai une ligne rouge, c'est celle de ne pas globaliser le conflit, notamment du fait qu'il n'y ait pas les soldats français.
Est-ce que vous regrettez d'avoir dit, moi, je ne veux pas aller au front?
Non, du tout. Non. Je ne veux toujours pas aller au front.
Parce que, mais vous n'iriez pas au front.
Mais sauf que je ne veux
pas engagé, me semble-t-il.
Ni moi, ni l'armée française. J'ai un grand respect, un immense respect pour nos soldats. Et je ne souhaite pas voir le moindre soldat français mourir sur le front ukrainien. L'aide à l'Ukraine, pour moi, il y a une ligne rouge, celle qui avait été fixée au tout début par Emmanuel Macron, c'est celle de ne pas devenir co-belligérant et de ne pas envoyer des soldats français, justement, sur le front ukrainien. Aider militairement l'Ukraine, bien évidemment qu'il faut le faire. Par contre, envoyer des troupes sur place, c'en est hors de question. Voilà, c'est ça la ligne rouge que je dis. Parce qu'on globaliserait le conflit, et les premières victimes d'un conflit global, d'un conflit mondial, seront les peuples ukrainiens qui seront au milieu d'une guerre entre des hyperpuissances, notamment nucléaires.
Bien, merci, Léon Desfontaines. Il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Vous voulez réagir? 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Vous voulez des essuie-glaces gratuits? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
French Days Zalando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. Des promos jusqu'au 9 mai avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
French Days sur Zalando.
Bah voilà.
Super Diète. Le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Superdiète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Superdiète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Superdiète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait...